Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodesavoirs.fr.
Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Oh, un chien qui court. Là, plutôt par là, un département comme la Mayenne. Et ici, je vois un cœur. Si vous avez déjà eu l'occasion de vous allonger dans l'herbe ou sur un banc et d'ouvrir grand les yeux vers le ciel, vous avez déjà peut-être joué à reconnaître des formes dans les nuages. Mais est-ce que les nuages sont juste des choses inertes qui passent au-dessus de nos têtes? Ou bien abritent-ils des formes de vie et des traces des activités humaines? C'est le sujet du jour pour cette nouvelle émission du Labo des Savoirs.
Pour parler de nuages aujourd'hui, nous accueillons, à distance, Angelica Bianco, chercheuse CNRS en chimie de l'atmosphère à l'Université Clermont-Auvergne dans le laboratoire de météorologie physique, et Pauline Nibert, doctorante dans la même équipe. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter Amandine et Solène, deux nouvelles bénévoles du Labo des Savoirs, qui nous parleront respectivement des formes différentes que peuvent avoir les nuages, et la pluie sur d'autres planètes que la Terre. Également dans le cadre de l'exposition « Sous la pluie » du musée d'art de Nantes qui a lieu jusqu'au 1er mars 2026, nous avons pu interroger Marianne Duboulet, historienne de l'art, responsable des collections du 19e siècle, mais aussi David Quéré, chercheur CNRS en physique à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, qui est lui spécialiste des gouttes d'eau.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
L'année dernière, nous avons découvert la Journée internationale des nuages qui a eu lieu en mars 2025. Cette journée a été initiée par un ancien avocat, Mathieu Simonet, qui milite pour l'instauration d'un statut juridique pour les nuages, véritable impensé dans le droit existant. Quelques mois plus tard, en novembre 2025, l'exposition « Sous la pluie » du musée d'art de Nantes ouvrait ses portes. Il n'en fallait pas plus pour nous donner envie de lever les yeux au ciel. Non pas pour réagir à la reprise du chantier de l'A69, mais bien pour nous intéresser aux nuages et à leurs mystères. Petit retour en arrière. L'étude poussée des nuages et de la météorologie remonte aux années 20, avec le lancement des premiers ballons météo. En 1960, le premier satellite météo opérationnel, Tyros 1, est lancé en orbite autour de la Terre. C'est le top départ de grandes avancées dans l'étude des phénomènes météorologiques avec les débuts de l'exploration spatiale. Et oui, envoyer des humains dans l'espace demande des données météo nombreuses et très précises. Aujourd'hui, des milliers de satellites possèdent des fonctions de mesure météo. Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous vous recommandons le documentaire en trois parties « Les mystères de la pluie » diffusé sur Arte. Toutes les données accumulées par ces satellites nous ont permis de mieux comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Tantôt une espèce de couche très épaisse qui ne laisse pas passer la lumière du jour, tantôt une sorte de voile qui nous fait penser à de véritables tableaux grandeur nature. Mais quand on écoute une présentation météo et qu'on entend parler de cumulonimbus, par exemple, on ne sait pas toujours à quoi ça fait référence. La couche épaisse ou le voile? Heureusement, Amandine, bénévole au Labo des Savoirs, est allée décrypter tout ça pour nous. Alors Amandine, comment on fait pour reconnaître les nuages? Est-ce qu'ils ont tous des noms d'ailleurs?
Mais oui Cécile, sujet absolument passionnant. Je vous donne aujourd'hui quelques petites astuces pour repérer et bien nommer vos nuages. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les nuages sont répertoriés dans l'Atlas international des nuages, tout simplement. Il s'agit d'une encyclopédie qui existe depuis la fin du 19e siècle Et cet atlas a été conçu pour harmoniser l'observation des nuages dans le monde entier. Donc on y trouve une méthode d'identification de ces nuages, les descriptifs précis de leurs caractéristiques, comme les dimensions, la forme, la structure, la texture, etc. Il y a aussi des photos qui sont prises par des amateurs de nuages partout dans le monde, un logiciel comparatif entre nuages. Bref, c'est une ressource essentielle pour les météorologues, que l'on peut trouver d'ailleurs en accès libre sur Internet.
Ah, super intéressant, mais qui a été à l'origine de cette nomenclature ?
On doit cette nomenclature à un pharmacien anglais du nom de Luke Howard dans un article publié en 1803, essai sur la modification des nuages. Et il règle en fait de manière très astucieuse le problème de la volatilité des nuages qui complique cette nomenclature, c'est-à-dire qu'il s'agit d'objets changeants sans cesse, jamais fixes, jamais identiques. Et donc Luke Howard, il propose d'appliquer aux nuages la méthode linnéenne du nom du naturaliste Linné. Donc il les classe en genres, eux-mêmes subdivisés en espèces et en variétés, et il va leur donner des noms latins pour plus de lisibilité. C'est un système très élégant qui lui vaudra notamment l'admiration du poète allemand Goethe, qui écrira des poèmes à la gloire des nuages d'Howard et incitera les peintres de son époque à s'inspirer de cette nomenclature. Mais revenons à nos nuages. Si nous n'allons pas détailler tous les noms de nuages, on peut retenir en tout cas trois catégories principales parmi la dizaine de genres. Les cirrus, tout d'abord, qui sont très fins, qui sont un peu en forme de filament dans le ciel. Les cumulus, qui sont vraiment un amas un peu moutonneux. Et les stratus, qui forment comme une couche ou un voile dans le ciel. Ces nuages, ils peuvent être situés dans les étages haut du ciel, au-dessus de 5000 mètres d'altitude donc, dans les étages moyens, entre 2000 et 7000 mètres environ, ou dans les étages bas, donc sous 2000 mètres d'altitude. Et entre eux, ils peuvent donner différentes combinaisons. On répertorie comme ça à peu près une centaine de nuages.
De quoi susciter des hobbies de chasseurs de nuages ? Et pour les moins avertis d'entre nous, tu aurais deux, trois astuces pour bien nommer les nuages ?
Mais oui, bien entendu, tout ça est un petit peu compliqué, mais il existe une version simplifiée, plus abordable, qui est disponible sur le site de Météo France. Je vous donne quelques exemples de nuages qu'on peut voir souvent dans la région Pays de la Loire. Si le nuage ressemble à une nappe froissée avec des ridules un peu comme quand l'eau se retire d'une plage de sable, vous voyez, c'est un cirrocumulus. Si vous voyez une couche nuageuse grise couvrant presque tout le ciel, mais qui laisse quand même un peu entrevoir le soleil, comme au travers d'un verre dépoli un petit peu, c'est un altostratus. Et enfin, si le nuage ressemble à un mouton blanc au contour très bien défini, c'est un cumulus.
Donc, si je comprends bien, la couche épaisse dont je parlais au début de l'émission, c'est un altostratus et le voile un cirrocumulus. Rien à voir avec un cumulonimbus, donc.
En effet, et d'ailleurs, la dernière petite astuce pratique chez vous, le préfixe ou suffixe nimbus dans les noms des nuages indique qu'ils sont porteurs de pluie, comme les nimbostratus par exemple. Donc, quand vous entendez parler à la météo d'un cumulonimbus, ces gros nuages verticaux et très menaçants, c'est signe qu'il faudra sortir le parapluie.
Ils doivent bien nous aimer, les cumulonimbus en Pays de la Loire, alors. Merci beaucoup pour cette chronique, Amandine.
Merci beaucoup.
Une chose, en revanche, que les satellites ne peuvent pas nous renseigner, c'est sur ce que contient un nuage, ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous accueillons à distance, aujourd'hui, Angelica Bianco, chercheuse CNRS en chimie de l'atmosphère à l'Université Clermont-Auvergne, dans le laboratoire de météorologie physique. Bonjour, Angelica.
Bonjour.
Vous êtes accompagnée de Pauline Nibert, doctorante en sciences de l'atmosphère. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, vous venez d'écouter la chronique d'Amandine sur la description des nuages. Voici ma première question. Aussi légère que les nuages, quel est votre nuage préféré ?
Moi, je pense que mon nuage préféré, c'est les cumulus, parce que c'est ceux qui sont vraiment doux, cotonneux. Bien épais, c'est ceux quand on est petit, on se dit on peut marcher dessus, ils sont suffisamment solides. Et puis finalement, quand on grandit, on a la dure réalité d'apprendre qu'on ne peut pas marcher sur un nuage. Et donc, à défaut, on essaie de les attraper. Pour moi, c'est toujours un cumulus, mais c'est un cumulus mammatus, parce qu'en tant que romantique et grande admiratrice des orages, j'aime bien ces cumulus mammatus qui ont des protubérances vers le bas et qui sont signes de forts orages, notamment de la grêle.
C'est ceux qui font un petit peu peur, alors.
Exactement. Alors, souvent très dense et très foncé.
Pauline, lors de votre participation au concours Ma thèse en 180 secondes, vous évoquez que 80% des ingrédients qui composent les nuages sont un mystère. Mais alors, comment se forment les nuages ?
Alors, pour former un nuage, il faut de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, c'est donc de l'eau sous sa forme gazeuse. Il y en a naturellement présent dans l'atmosphère. Et on peut aussi en avoir quand elle passe du coup de l'état liquide à gazeux sous, par exemple, les océans, sous l'effet du rayonnement solaire, ça peut se réchauffer de la surface et il y a une partie de l'eau qui peut s'évaporer. Et quand elle va monter, cette vapeur d'eau, elle va refroidir et condenser. Sauf que pour condenser, elle a besoin d'un petit boost en énergie et elle va trouver pour ça une petite particule qu'on appelle du coup dans le milieu scientifique un noyau de condensation. Et ça c'est ce qui permet du coup de former la gouttelette d'eau. L'eau, elle va venir se déposer sur notre particule et ensuite on aura plein de petites gouttes. Quand on a un ensemble de gouttelettes en suspension, on a notre nuage et les gouttelettes sont tellement petites qu'elles ne tombent pas quand on a le nuage au-dessus de notre tête. Et pour les noyaux de condensation, donc tout ce qui est particules, en fait, ça vient des émissions biogéniques, donc tout ce qui est naturel, les plantes, l'herbe, ça peut être le sable, le sel marin, mais on a aussi tout ce qui est lié aux activités humaines avec la pollution, les feux, les pots d'échappement, les usines, et tout ça, ça contribue à amener des particules dans l'atmosphère. On a aussi des gaz, des aérosols, et donc un nuage, c'est un milieu qui est très riche.
Donc un nuage, ça peut se former à partir de plein de choses différentes.
C'est ça.
Angelica, cela fait une dizaine d'années que vous étudiez les nuages. Quels sont les buts de vos recherches ?
Alors, au Puy-de-Dôme, nous, on est clermontois, on n'est pas nantais. Au Puy-de-Dôme, on étudie les nuages depuis le début des années 2000. Ça fait plutôt 25 ans qu'on a une expérience sur l'étude des nuages. Et on collecte effectivement les échantillons au sommet du Puy-de-Dôme et on regarde différents composés chimiques qui se trouvent dans les gouttelettes.
Vous venez juste de me dire que vous récupériez des échantillons de nuages, mais comment est-ce que vous faites ça? Parce que c'est vrai que les nuages, ils nous paraissent bien inaccessibles vu d'en bas.
Effectivement, nous avons développé des collecteurs. C'est des collecteurs de nuages qui sont capables d'aspirer les gouttelettes et de les mettre ensemble, de les condenser à former un liquide. Et une fois que nous avons le liquide, on peut faire plein d'analyses, parce que c'est vraiment de l'eau des nuages que nous utilisons pour des analyses chimiques, mais aussi microbiologiques.
Le chercheur Raymond Chaud de l'Université du Michigan, lui, ne devait pas être fan de randonnée pour monter en haut du Puy-de-Dôme, car il a créé sa propre machine qui crée des nuages, la Pi Cloud Chamber. Dans cet environnement contrôlé, il peut jouer sur la température, l'humidité et les aérosols pour fabriquer des nuages artificiels. Avec vos échantillons récupérés au sommet du Puy-de-Dôme, quelle technique utilisez-vous pour étudier ces échantillons ?
Pour préciser, ce n'est pas la seule chambre à nuages qui existe dans le monde. Il y en a aussi en France des chambres pour étudier les nuages. Mais le problème, c'est que former un nuage, le problème, c'est de le maintenir à l'intérieur de la chambre. C'est pour ça que nous allons regarder plutôt dans les environnements naturels des nuages qui sont certes plus complexes, mais plus faciles à échantillonner dans ce sens. Et qu'est-ce qu'on regarde dans les nuages? Tout d'abord, on fait la même analyse que pour l'eau en bouteille. Du coup, on va regarder les ions majeurs, ça veut dire le sodium, le potassium, mais encore le nitrate et le sulfate. Parce que déjà ça nous donne une indication de la bonté, on va dire, du nuage. En fait, les nuages sont influencés par leur parcours. Pendant le parcours de la masse d'air, les nuages vont se charger de tous les composés qu'ils trouvent. Et du coup, une masse d'air qui passe sur l'océan sera riche en chlorure de sodium, alors qu'une masse d'air qui passe sur une région très polluée sera riche en sulfate, en nitrate, et aura aussi une acidité accrue par rapport à l'autre. Ensuite, en fonction du projet scientifique que nous sommes en train de développer, on va développer des méthodes spécifiques pour une certaine catégorie de composés. On a fait par le passé les acides aminés dans les nuages,
mais aussi les sucres dans les nuages. Et plus récemment, on est aussi allé regarder les pesticides dans les nuages.
Et donc, quelle technique scientifique est-ce que vous mettez en place pour étudier tous ces composés qui sont contenus dans vos échantillons?
Alors, pour les ions, ça peut être une chromatographie ionique, tout simplement, et un pH-mètre pour analyser le pH. Et ensuite, pour les autres composés que j'ai cités, on va plutôt se fier à la spectrométrie de masse avec une résolution qui peut être croissante.
La première technique que vous avez citée, c'était?
C'est la chromatographie ionique.
Alors, chromatographie, si je me souviens bien, c'est une technique pour séparer les composants qui vont vous permettre de les isoler pour pouvoir les identifier.
Exactement. C'est une machine qui est assez courante sur les plateformes analytiques. L'échantillon est injecté dans une colonne qui sépare effectivement les ions du plus mobile au moins mobile. Et ensuite, on a un détecteur en conductimétrie qui nous permet d'avoir nos pics en fonction de la sortie du composé.
Donc le pH-mètre, c'est pour mesurer le pH. Et exact. La spectrométrie de masse, sur le principe, c'est un peu la même chose que la première. ça sépare les composés. Ou alors
pas
j'ai de très mauvais souvenirs.
Pas tout à fait. La spectrométrie de masse, c'est un peu la technique de pointe actuelle. Et ça permet d'identifier les composés en fonction de leur masse. En fait, les composés sont ionisés, ensuite injectés dans un analyseur qui peut être différent, quadrupole, orbitrap, etc. Et en fonction de la masse, on peut attribuer une formule sur la base des standards ou sur la base d'autres traitements de données.
Merci pour ces précisions. Donc, vous avez déjà un peu répondu à ma prochaine question. C'est qu'est-ce qu'on peut trouver dans un nuage à part de l'eau? Donc, vous m'avez parlé de sel, par exemple, si le nuage se forme au-dessus de l'océan, de pesticides s'il se forme au-dessus de champs non bio, j'imagine, mais également de micro-organismes ou d'acides aminés.
Exactement.
Ces acides aminés ou ces micro-organismes, d'où ils viennent? Comment ils sont emportés dans le nuage?
Alors, les micro-organismes viennent plutôt des sources biogéniques, ça veut dire de la végétation, de l'océan, du sol. Et leur aérosolisation, ça veut dire leur mise en suspension, est faite par l'action du vent, notamment par exemple sur les feuilles de la végétation. Le vent qui brasse les feuilles des arbres détache des microparticules, parce que les micro-organismes ont une taille allant de 1 micromètre jusqu'à 5, maximum 10 micromètres. Ces particules sont détachées et ramenées en altitude. Et une fois en altitude, le micro-organisme voyage comme n'importe quelle autre particule, sauf qu'il est vivant, potentiellement, et il a une activité à l'intérieur du nuage.
Est-ce qu'il y a une différence chimique entre les nuages hauts et les nuages bas, comme le brouillard?
Alors, j'ai une réponse partielle à cette question, dans le sens qu'on a une vraie différence entre un nuage, on va dire, de moyenne altitude, de 1000 mètres, 2000 mètres, et le brouillard. Parce que le brouillard, c'est quelque chose qui est notamment influencé par les émissions locales et qui est récolté pendant des épisodes où il y a très peu de vent, alors que dans les nuages, il y a toujours beaucoup de mouvements de l'air. Par contre, on n'a pas énormément de mesures sur les nuages d'altitude, parce que le site de mesure pour collecter les nuages sont sur des observatoires, généralement. Il y a quelques mesures par avion, mais on n'arrive pas à avoir une cartographie de la composition des nuages de haute altitude. Du coup, oui, on a une différence entre les nuages de 2000 mètres et le brouillard, mais on n'a pas suffisamment de réponses pour ce qui est plus en haut.
Peut-être qu'avec l'avènement des drones, il y aura possibilité de récupérer des échantillons plus facilement sur les nuages de haute altitude.
C'est possible.
Est-ce que la composition des nuages et donc la pluie qui tombe peut avoir un impact sur l'écosystème présent? Donc par exemple, les pesticides qui montent dans le nuage se déplace. Est-ce que ces pesticides peuvent avoir un impact sur l'écosystème où se déverse la pluie du nuage?
Alors oui, les nuages ont un impact sur les écosystèmes. Et c'est d'ailleurs ça qui a démarré l'étude des nuages. Parce qu'on a tous entendu parler, certains l'ont aussi vécu, les plus anciens, des pluies acides. Les pluies acides, c'est des pluies avec un pH de 2, voire de 1, du coup du vinaigre ou du jus de citron. c'est un phénomène qui était plutôt dans les années 80. Alors, les pluies acides étaient dues à la réactivité dans les gouttelettes des nuages et l'eau avec un pH de ce type tombait sur les forêts, sur les étendues de végétation, en provoquant des dommages incroyables, et notamment dans la forêt de Vosges, il y a plusieurs hectares de forêt qui ont été brûlés littéralement par ces pluies. On voit bien, si on arrose notre plante d'appartement avec du vinaigre tous les jours, ça ne peut pas survivre, on est d'accord. Ça, c'est ce qui a démarré l'étude des nuages. Par contre, pour le moment, on n'a pas encore de conclusion pour les autres composés qui sont à beaucoup plus faible concentration. Quand on parle des pluies acides, on parle du pH. Du coup, on parle d'un paramètre qui est très important dans les nuages. Quand on parle des pesticides, les concentrations sont quand même très, très faibles et certainement inférieures aux concentrations qui sont utilisées pour l'épandage. Du coup, on n'a pas du tout de conclusion sur l'écotoxicologie de ces composés.
Écotoxicologie, la toxicité sur l'écosystème.
Exactement.
Les nuages sont des objets qui se déplacent. Est-ce que c'est possible de savoir d'où viennent les nuages que vous étudiez ?
Alors, oui. En général, nous, on regarde jusqu'à 3 jours en arrière l'origine de la masse d'air, où elle a voyagé à partir de notre aire de collection. Et pour ça, du coup, on utilise, ça s'appelle des rétro-trajectoires, on utilise un modèle au laboratoire qui s'appelle CAT. Et en fonction de l'heure de collecte et des paramètres direction du vent, température, pression, on est capable de remonter. Donc nous, on choisit 3 jours en arrière, mais on peut monter plus loin si on veut. C'est juste... Après, c'est la façon d'analyser les résultats, à quel point c'est précis d'analyser quelque chose qui vient 3 jours en arrière, 15 jours en arrière.
Oui, surtout, j'imagine que les nuages peuvent fusionner ensemble ou se séparer, et donc ça peut être compliqué savoir
et
vraiment...
Puis, le nuage, c'est un réacteur chimique aussi très complexe du fait des transformations qui peuvent avoir lieu à cause de la photochimie, donc du rayonnement UV, des micro-organismes qui sont dedans. Du coup, on essaie d'avoir un maximum d'informations sans trop aller en arrière et sans pas assez aller en arrière sur notre nuage. Et l'importance aussi, c'est à quelle altitude il a voyagé, parce que un nuage qui voyage plutôt proche du sol, ben il va s'enrichir en particules, en gaz, et plus on est en altitude, on est plus loin des sources, et donc le contenu sera pas le même.
Et donc toi, Pauline, qu'est-ce que tu as pu observer dans ton travail de thèse ?
Alors, moi, mon travail de thèse, c'est étudier les 80% inconnus dans le nuage. Au début, on vous parlait de la chromatographie ionique et on étudie les sels. Ça, c'est l'analyse de routine. En fait, on sait qu'on a, par exemple, du magnésium ou du chlorure dans notre nuage. Donc, on va le chercher, on va cibler cet élément. Et moi, justement, l'idée, c'est si on fait un scan de tout ce que contient notre nuage, donc on appelle ça la matière organique, donc tout ce qui contient du carbone globalement, essayer ensuite, alors déjà, scanner tout ce que contient notre nuage, donc c'est la spectrométrie de masse, et donc il y a vraiment définir la bonne méthode, parce qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes sur cet outil-là, puisqu'il est très précis, et ensuite c'est traiter les éléments qu'on a dans notre nuage, donc moi, je les classe. On a des catégories qui sont lipides, protéines, oxyaromatiques, des sucres. Et donc, j'essaie de voir, par exemple, si un nuage qui a été collecté au Puy de Dôme, il a autant de lipides qu'un nuage qui a été collecté sur l'île de la Réunion ou qu'un nuage qui a été collecté en Italie, donc au Montecimone à plus haute altitude, et faire des corrélations, voir qu'est-ce qui est différent.
En plus, j'imagine que vous collaborez avec d'autres équipes, puisque vous me dites que vous avez accès à des échantillons qui viennent d'Italie, de La Réunion.
Oui, c'est ça. Bah, déjà, on collabore pas mal avec donc, les laboratoires d'Italie. On était avec Isaac CNR de Bologne.
En fait, nous, on organise des campagnes de collecte de nuages parce qu'on a un site en France qui est le Puy de Dôme, mais ça ne peut pas être représentatif de toutes les nuages de tout le monde. Du coup, on va essayer de regarder des types de nuages qui peuvent être différents. Par exemple, à La Réunion, on a des nuages tropicales qui ont vraiment une empreinte de la végétation qui est très importante. Et le Montecimone a été sélectionné comme un site en Italie parce qu'il se trouve juste à nous de la plaine du Pô, qui est un des endroits les plus pollués en Europe. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on va mesurer là ? Est-ce qu'on aura des nuages plus pollués qu'au Puy de Dôme ? Et Pauline a participé d'ailleurs à ces campagnes.
Et alors, les analyses sont en cours.
Ok.
Alors, une campagne de nuages, c'est pas un moment de pur plaisir, parce que les nuages aiment bien la nuit, aiment bien le week-end, et les conditions ne sont pas favorables, dans le sens qu'il fait vraiment moche. Mais les analyses sont en cours.
Ok. Peut-être qu'on pourra refaire une émission dans quelques années pour avoir le fin mot de l'histoire.
Moi, j'avais juste une question sur ces campagnes de collecte de nuages. C'est si poétique, c'est oui. Formidable. Je me demandais si du coup toutes les équipes de recherche devaient avoir la même technique pour récolter des nuages, ou est-ce qu'il y a des équipes qui ont des techniques différentes?
Alors, en fait, nous, on travaille, on intègre un consortium européen. Et dans ce consortium, vu que chacun a son collecteur de nuages custom made, on va dire, fait par soi-même. Le principe est plus ou moins pareil pour tout le monde, mais on est sur des instruments différents. Et un des objectifs de ce consortium est de comparer ces collecteurs pour voir si on trouve tous la même chose. Et on a fait déjà 3 ou 4 intercomparaisons à différents endroits en Europe, au Mont Saint-Blic, au Mont Schmuck en Allemagne et au Puy-de-Dôme. Et en fait, on trouve la même chose. Et on est plutôt content.
Bah oui, surtout pour du fait maison.
Exactement.
C'est rassurant.
J'adore vraiment le fait de faire une émission avec des chasseuses de nuages.
Comment collecter des nuages à la maison? Est-ce que c'est possible?
Oui. Si, c'est possible. C'est avec un filet.
Ah oui.
Vous laissez un filet dehors. C'est comme l'étoile d'araignée, en fait. Mm. Le filet se mouille et l'eau que vous avez, qui coule, c'est de l'eau de nuage. Mais ça sera de l'eau de brouillard, je veux dire.
Oui.
Sauf si vous habitez à 1800 mètres.
Est-ce que vous arrivez à collecter de la matière de nuage, par exemple, d'un cirrus et d'un cumulus et d'un altostratus, etc.? Enfin, il y a vraiment cette classification en termes de composition. Et est-ce qu'elle change, du coup, en fonction des nuages?
Alors, on arrive à collecter des stratus et des cumulus.
Okay.
En sachant que dans le cumulus, on a souvent des foudres qui se forment. Du coup, on évite.
Oui, je comprends.
Mais on n'arrive pas à collecter les cirrus. On n'arrive pas à collecter tout ce qui est très haut. On arrive à cumulus et stratus, on va dire. Et par contre, on n'a jamais fait la corrélation s'il y avait une variabilité entre les deux. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait lancer.
Du coup, vous me disiez que chaque gouttelette de nuage, c'était comme un mini réacteur dans lequel se passaient des réactions chimiques. Est-ce que du coup, le fait de récolter l'échantillon, ça stoppe les réactions, ou est-ce que vous ajoutez quelque chose pour stopper les réactions?
En fait, on collecte, la collecte dure le moins de temps possible, et ensuite notre échantillon est traité dans les 10 minutes suivantes. Dans le sens qu'on ne fait pas les analyses dans les 10 minutes suivantes, mais l'échantillon est fractionné, et chaque fraction est stoppée pour le composé qu'on veut analyser.
D'accord,
du coup,
vous
supprime la réactivité dans ce sens-là. Okay. L'échantillon, il est sous forme liquide.
Oui.
On va le fractionner. Ça veut dire qu'on va mettre, par exemple, 10 ml dans une Eppendorf qui sera traitée d'une certaine façon pour faire une analyse. Parce que chaque composant du nuage a une sensibilité différente à la lumière, aux réactions différentes. Du coup, on va fixer le milieu pour chaque analyse. Mais l'analyse n'est pas faite tout de suite après, ça serait impossible.
D'accord, oui, je comprenais mieux, parce que sinon je m'étais imaginé je ne sais pas, une valise portative avec de quoi faire des analyses hyper rapidement au pied, au sommet des montagnes dès qu'on a pris un nuage, mais non, ce n'est pas comme ça.
Et ça coûterait trop cher pour la recherche publique.
Ouais. Je pense qu'il faudrait créer quelque chose pour nous téléporter aussi, parce que certaines analyses sont à Paris.
Bah oui, c'est ce que vous disiez, vous faites les analyses dans différents endroits, et du coup, le fait de stopper, c'est vous congeler ou c'est chimique, ce stop des réactions?
Ça peut être de différentes façons.
Selon la technique.
Pour les ions, c'est tout simplement une filtration où on enlève toutes les particules qui sont dedans et on congèle. Mais par exemple, on mesure le peroxyde d'hydrogène, ça veut dire l'eau oxygénée qui est dans les nuages. Et l'eau oxygénée étant très réactive, on va la dérivatiser, on va la faire réagir. Et ensuite, on mesure le composé produit de la réaction.
Bien, merci beaucoup Angelica et Pauline, nos deux chasseuses de nuages, pour cet éclairage passionnant sur la chimie des nuages. On enchaîne sur une petite pause musicale avec The Down de Clouded Souls.
black hand inside my hair.
C'est la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
C'était The Dawn, The Cloud and Souls. Nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission sur les nuages. Alors, une des questions que l'on n'a pas posées jusqu'ici dans cette émission, c'est mais à quoi donc ça sert d'avoir des nuages ? Une des premières fonctions des nuages est d'équilibrer le climat. Dans un cours dispensé au Collège de France le 12 décembre 2024, François-Marie Bréon, physicien, climatologue et ayant contribué à la rédaction du 5e rapport du GIEC, explique que le dérèglement climatique va avoir un impact sur les nuages. Pour le moment, ce que les modèles prédisent, même s'il y a évidemment des incertitudes, c'est que les nuages seront plus élevés en altitude, qu'il y en aura moins et qu'il y aura davantage d'eau et moins de glace dans les nuages. La conclusion est que ces changements vont amplifier le dérèglement climatique. Néanmoins, beaucoup d'incertitudes persistent. Est-ce que ça va amplifier un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie ? Ça, on ne le sait pas. Est-ce que vous voudriez réagir à ça, justement, Angelica et Pauline ? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez, je ne sais pas, si le dérèglement climatique va avoir un impact sur la composition des nuages dans ce que vous cherchez en termes de micro-organismes ou de sucre et de pesticides, etc.
Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut faire que des hypothèses, dans le sens que le réchauffement climatique va je pense, impacter la composition, mais on ne sait pas à quelle mesure. Il y a des études récentes qui parlent d'une basification des nuages. Ça veut dire que dans les années 80, on avait une acidification. Et là, on va vers des nuages avec un pH neutre dû à la grande quantité d'ammonium. Ammonium qui est utilisé pour les fertilisants et pour d'autres choses. Mais on est encore à l'étape d'hypothèse et on n'a pas de réponse certaine pour ça. Par contre, on sait que les nuages sont différentes en fonction de la région où on les collecte, si elle est polluée ou pas, parce que là, pas d'un point de vue chimique, mais d'un point de vue microphysique, les gouttelettes sont différentes. Si une région est très polluée, avec beaucoup de particules d'aérosol, les gouttelettes seront beaucoup plus fines et avec une tendance à ne pas donner de la précipitation, parce qu'elles n'arriveront pas à se coller ensemble.
Ben merci beaucoup déjà pour cet éclairage. Et en dehors du climat, donc je répète, ma question de départ était, mais à quoi ça sert donc d'avoir des nuages dans le ciel? Donc il y a cette fonction d'équilibre du climat, mais il y a aussi le fait que les nuages soient une composante essentielle du cycle de l'eau sur Terre, et ce cycle est aussi menacé par le dérèglement climatique. Aujourd'hui déjà, il y a des zones sur la planète où il pleut trop et d'autres où il ne pleut pas assez. Et depuis plusieurs dizaines d'années, certains pays décident quand il doit pleuvoir ou non sur les terres. Et ça s'appelle ensemencer les nuages. C'est un terme qui est apparu dans les années 1940 et qui consiste à lancer des produits chimiques, dont les aérosols que vous venez de mentionner, Angelica, ou de l'iodure d'argent. Et ces produits chimiques peuvent alors faire précipiter les nuages, donc pleuvoir, ou réduire la taille de la grêle, qui pourrait ravager des exploitations viticoles par exemple. Selon Andrea Flossmann, professeur émérite en météorologie à l'Université Clermont-Auvergne et membre de l'Organisation météorologique mondiale, ce processus d'ensemencement n'est pas encore documenté scientifiquement de manière robuste, justement à cause de la variabilité des nuages, ce dont nous parlait Amandine dans sa chronique en début d'émission. Mais ça n'empêche pas certains pays d'y avoir recours régulièrement, comme la Chine ou les Émirats Arabes Unis. Et ces pays peuvent ensemencer les nuages car il n'y a pas de réglementation ni de législation sur le sujet. Et c'est cette impensée que dénonce l'ex-avocat et l'écrivain Mathieu Simonet. Bien qu'il existe une convention pour interdire l'ensemencement des nuages dans le cadre de la guerre, le droit ne dit rien sur le reste. À qui appartiennent les nuages? Est-ce que c'est à tout le monde? Est-ce que c'est à personne? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ou ne pas le droit de faire? Pour l'instant, toutes ces questions sont sans réponse.
D'ailleurs, il n'est pas forcément nécessaire de toucher aux nuages existants. Il est possible de végétaliser des zones arides sans envoyer des aérosols dans le ciel. C'est ce que fait l'écologiste Rajendra Singh dans l'état du Rajasthan en Inde. En créant des bassins d'eau qui recueillent l'eau de pluie, appelée Johad, il a redonné vie à près de 1200 villages. Contrairement aux méga-bassines, qui consistent en une retenue d'eau artificielle plastifiée et imperméable, ces Johad permettent le remplissage des nappes souterraines, réduisent l'érosion du sol et augmentent l'humidité localement. Le fait d'avoir davantage d'humidité et d'eau favorise la croissance de végétaux et de plantes, ce qui augmente l'évapotranspiration et donc la création d'une zone d'ombre pluviométrique, c'est-à-dire de nuages et donc de pluie. Selon Rajendra Singh, cette technique est surtout adaptée à l'échelle locale et elle lui a valu la remise du prix de l'eau de Stockholm en 2015.
Mais trêve de parler de nuages et de pluie sur la Terre, je vous invite à laisser ça de côté et à prendre place dans un vaisseau spatial imaginaire, car il me semble que Solène, bénévole au Labo des Savoirs, a des choses à nous dire sur les nuages et la pluie, mais en dehors de notre planète bleue.
Bonjour à tous. En effet, permettez-moi de tourner notre regard un peu plus loin que notre vaste ciel. Vous n'êtes pas sans savoir que sur Terre, les nuages sont source de pluie, de neige ou de grêle. En somme, de l'eau sous différentes formes. Et si les nuages pouvaient faire pleuvoir autre chose que de l'eau? Si oui, comment cela serait possible? Pour cela, il nous faut tourner le regard vers l'espace. Que cela soit au sein de notre galaxie ou au-delà, les planètes et exoplanètes qui peuplent notre univers sont riches d'événements météorologiques surprenants.
Et ça serait en effet hyper intriguant. Est-ce que tu aurais des exemples de planètes à nous présenter?
Oui, bien sûr. Eh bien, commençons avec nos voisines, Uranus et Neptune. Géantes gazeuses, ces planètes n'ont pas de surface sur lesquelles se poser. Mais ça n'empêche pas leur atmosphère de révéler de nombreux événements étonnants. Situées à respectivement 2 et 4 milliards de kilomètres de la Terre, De nombreux mystères entourent encore leur fonctionnement. Néanmoins, grâce aux données collectées par le passage de la sonde voyageur dans les années 80, on connaît aujourd'hui la composition de leur atmosphère. On y retrouve de l'hydrogène, de l'hélium, mais surtout du méthane, en faible quantité, 2%, mais c'est d'ailleurs cet élément qui donne sa couleur bleue à ces planètes. Ces propriétés ne sont pas que esthétiques néanmoins, elles sont également à l'origine de véritables pluies de diamants sur nos deux planètes géantes. En effet, le méthane est une molécule qui contient de l'hydrogène, mais surtout du carbone. Lorsque cet élément subit de fortes pressions et des températures extrêmement chaudes, il peut donner naissance à des diamants. L'atmosphère de ces deux planètes serait donc saturée de poussière de pierres précieuses qui, avec le temps, s'enfoncerait dans les couches de glace proches du cœur. Précisons que ces données sont liées à des expérimentations en laboratoire à haute pression et température et restent dans le cadre de l'hypothèse. Il faudrait attendre encore quelques années pour étudier plus en détail ces mystères du système solaire, avec notamment la mission Uranus Orbiter Entraube qui vise l'horizon 2031 pour sonder la surface de la planète.
Alors c'est sûr que s'il commence à pleuvoir des diamants sur Uranus et Neptune, je ne doute pas que si ça tombe dans les oreilles de grands capitalistes, ces planètes vont être vite colonisées. Mais donc tant de mystères dans notre système solaire, c'est génial. Mais qu'en est-il du coup des autres planètes ?
Eh bien en effet, il n'y a pas que des métaux précieux qui peuvent tomber sur d'autres planètes. Il existe d'autres exoplanètes insolites à étudier. On peut parler par exemple de WASP-121b. Située à 855 années-lumière de la Terre, beaucoup plus loin cette fois-ci, cette géante gazeuse ultra chaude a été étudiée par le télescope spatial Hubble en 2015. Souvenez-vous, pour Uranus et Neptune, des diamants se forment sous la pression, ce qui en fait une météo très inhospitalière, bien que très riche. Si je peux me permettre. Alors imaginez des pluies et des vents composés de métal en fusion. Et oui, l'état liquide, solide ou gazeux de certains matériaux dépend uniquement de la pression et de la température. Sur WASP-121b, le thermomètre monte jusqu'à 2500 degrés Celsius. En temps normal, dans ces conditions, le fer qui est très présent dans l'atmosphère s'évapore entièrement. Seulement, cette exoplanète possède un côté exposé à son étoile, donc un côté jour, et un autre dans l'ombre constante, donc un côté nuit. Ainsi, le fer devenu vapeur forme des nuages, côté jour. Transporté par des vents violents qui peuvent atteindre les 18 000 km/h, ces nuages arrivent donc côté nuit. Et avec la baisse brutale de température, on atteint quand même les 1500 degrés, hein, mais le fer retrouve son état liquide, provoquant de véritables pluies métalliques. Pas sûr que le moindre parapluie y résiste cette fois-ci.
Alors là, c'est littéralement, je pense, des météos qui pourraient exister en fait dans les meilleurs romans de science-fiction, finalement. Donc si on résume, du fait de la pression et de la température, les nuages de nombreuses planètes peuvent contenir bien autre chose que de l'eau.
Tout à fait, c'est là que c'est intéressant de voir que la science peut parfois égaler la science-fiction dans ce qu'on peut voir un peu par-delà l'espace. Mais on peut pousser plus loin les hypothèses. Dans le cas de nombreuses planètes qui subissent des températures plus extrêmes que chez nous, il y a de nombreux éléments qui sont vaporisés et se retrouvent en effet à former des nuages dans leur atmosphère. On a une autre planète, WASP-17b, qui ici contiendrait du quartz dans ses nuages, qui est un minéral qu'on retrouve dans le granit, qu'on imagine loin de pouvoir former des nuages. L'espace recèle ainsi de nombreux mystères à découvrir au fil des innovations de la conquête spatiale. Mais une chose est sûre, les nuages extraterrestres vous feront sûrement relativiser à l'avenir les averses et les vents nantais.
Merci beaucoup Solène pour cette première chronique.
Solène parlait de science-fiction dans sa chronique. Et bien justement, pour continuer dans la thématique art et science, Jérémy, bénévole au Labo des Savoirs, et Julie ont profité de l'exposition « Sous la pluie » proposée par le Musée d'art de Nantes pour aller poser quelques questions à l'historienne de l'art Marianne Duboulet, responsable des collections d'art du 19e siècle, et au physicien David Quéré, chercheur CNRS à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, qui est venu faire une conférence sur les gouttes d'eau le 11 décembre 2025.
Effectivement, avec toute l'équipe, on a profité de la préparation de cette émission pour aller visiter cette nouvelle exposition dont je laisse la commissaire vous présenter les grandes lignes.
Sous la pluie, elle est née de l'envie et du constat aussi, peut-être déjà que la pluie est une expérience d'abord visuelle. Et on peut constater qu'il y a un certain nombre de pionniers qui vont essayer de transcrire cette pluie, qui vont être nourris aussi de l'arrivée des estampes japonaises. Et on observe un vocabulaire formel qui va se développer autour du trait, la pluie qui tombe en trait sur le sol, le point lorsque cette goutte heurte le sol. Et si vous avez l'expérience d'une journée d'été, le bitume est tout sec et la pluie arrive petit à petit, vous voyez le sol qui se couvre de ces taches noires. Puis également cette forme de la goutte d'eau qui fascine, qui a un pouvoir d'abstraction tout à fait intéressant pour les peintres. Et ces peintres qui, au XXe siècle, de retour dans leurs ateliers, vont devenir eux-mêmes créateurs de pluie. Donc on voulait aborder cet aspect-là également. Ensuite, la pluie, elle arrive dans des villes qui sont complètement modernisées et transformées au XIXe siècle. Adieu la boue, la poussière, bonjour les pavés, le bitume, les réverbères qui vous éclairent la nuit, les passages couverts et surtout le parapluie qui vous couvre, vous abrite, le parapluie qui se démocratise, qui devient un marqueur social. L'intérêt pour les peintres n'est pas tant de représenter cette pluie mais plutôt ses effets et on se rend compte que la ville est transformée et le ciel finalement sublime ses trottoirs, ses pavés recouverts d'une fine couche d'eau. Il n'y a qu'à voir le tableau de Caillebotte. Ce qui est le plus beau peut-être dans ce tableau, c'est les pavés en fait, tout simplement, qui sont au sol. Et puis une autre proposition, celle des photographes, pour lesquels capter la pluie est tout aussi difficile, dans les effets de transparence, de flou, de mise à distance à travers les vitres, lorsque les gouttes se déposent sur les vitres, coulent comme ça sur les vitres, vont les intéresser au plus haut point.
Et puisque tout le monde n'habite pas à côté du Puy de Dôme et ne peut pas aspirer des nuages pour son travail comme Angelica Bianco et Pauline Niver, Jérémy demandait à David Quéré s'il était possible de reproduire les nuages en labo, physiquement ou en simulation.
Je dirais qu'on sait déjà le faire dans sa cuisine. C'est-à-dire que quand je fais chauffer une casserole d'eau, eh bien, à un certain moment, je vois un petit nuage s'installer au-dessus de la casserole. Souvent, on dit que c'est de la vapeur, mais pas du tout. Ce sont forcément des gouttes, sinon je ne verrais rien. C'est des gouttes qui se sont formées parce que de la vapeur s'est échappée, est arrivée dans l'air plus froid, s'est condensée et a fait, à très petite échelle, celle de ma cuisine, un petit nuage. Il y a quelque chose qui reste assez mystérieux, qui est la façon dont la pluie se forme à partir des nuages. Dans un nuage, les gouttes d'eau qui le constituent font 10 micromètres, c'est-à-dire un centième de millimètre, l'extrême limite de ce qu'on peut voir. D'ailleurs, on en est tout à fait conscient quand on est soi-même dans un nuage, c'est-à-dire dans de la brume. À ce moment-là, on voit bien qu'on ne voit rien, si on peut dire. Comment ces tout petits noyaux vont fabriquer des gouttes assez grosses pour tomber? Si on prend des ordres de grandeur, c'est-à-dire si on se souvient qu'une goutte fait plutôt 1 mm, une goutte de pluie, qu'elle est faite à partir de gouttes de 10 microns, c'est-à-dire qu'il faut que 1 million de ces petites gouttes fassent une seule goutte qui va tomber, quel est le mécanisme qui fabrique cette extraordinaire condensation? Je pense que ça reste en grande part mystérieux.
Et qu'on puisse reproduire des nuages chez soi ou en laboratoire, je demandais de mon côté à Marie-Anne Duboulet comment la représentation des nuages a évolué au cours de l'histoire de l'art.
Alors, je peux peut-être parler pour l'art occidental, puisque le nuage, oui, il fait partie, à partir de la Renaissance, on va le retrouver assez régulièrement. Et ce n'est pas sa dimension physique qui intéresse, mais c'est plutôt sa dimension divine, puisqu'il va être une image de l'au-delà, une image du paradis, une image des cieux habités le plus souvent. Et il faut attendre vraiment le XVIIIe siècle et qu'il y ait un véritable intérêt scientifique pour cet événement météorologique, ce mouvement d'eau, d'air, de lumière qui se transforme en pluie lorsque les conditions sont réunies. Et cette pluie qui va transformer ensuite le paysage et qui va intriguer les peintres. Et donc ce lien nuage-pluie, il va vraiment arriver au début du XIXe siècle, parce qu'auparavant, le nuage est plutôt un élément de dramatisation du récit, qu'il soit mythologique, biblique, que ce soit une tempête marine dans laquelle il y a toujours une dimension morale. La pluie et le nuage sont toujours là pour indiquer la fragilité humaine, avec un rayon de soleil quand même qui nous fait croire dans l'espoir d'une salvation possible. Et lorsque les peintres vont commencer à sortir de leurs ateliers, fin 18e, début 19e siècle, plutôt en Italie, où la lumière est belle, la pluie arrive parfois par accident lors de leur sortie et ils vont découvrir cette transformation du paysage, cette indistinction à la limite de l'horizon entre le ciel et puis la terre, les couleurs qui sont ravivées par la suite, ou au contraire les couleurs éteintes par ces nuages qui vont absorber toute la lumière. Donc ça a un intérêt véritablement à la fois scientifique, artistique, et qui est l'occasion de questionner leur propre pratique artistique également, sachant qu'en plus au XIXe siècle arrive la photographie, le tube de peinture à l'huile qui va vous permettre de peindre en extérieur. Et ensuite, on se rend compte au XXe siècle, avec le retour des artistes dans leurs ateliers, que ces observateurs de pluie sont devenus des créateurs de pluie. Et à leur tour, comme dans un petit laboratoire, Patrick Tosani appelait ça son petit théâtre de pluie, ils vont recréer la pluie, que ce soit par la fabrication, d'une certaine manière, de gouttes d'eau, comme Anna Eva Bergman, qu'on voit dans l'exposition avec des pâte à modeler, une sorte de modeling paste qu'elle va créer en forme de goutte pour ensuite écraser. Ou alors Hans Hartung qui lui utilise un pulvérisateur et qui va projeter comme un geste créateur de projection d'eau, d'air, de peinture sur une toile. Ou encore Patrick Tosini qui lui directement crée une averse artificielle dans son atelier qu'il prend ensuite en photo.
Et la science inspire souvent les artistes. Et Jérémy interrogeait à son tour David Quéré sur les liens entre ses travaux de recherche sur les gouttes d'eau et l'art.
Oui, il y a pu avoir des dialogues. Enfin, celui qui a été le plus intense, c'est un garçon très remarquable qui s'appelle Benoît Pipe et qui a choisi de faire une thèse dans mon groupe. De ces thèses qui s'appellent les thèses sacres, qui sont des thèses un peu extraordinaires parce que c'est des thèses pour les artistes. Lui, par exemple, venait des arts déco. On a donc immergé Benoît dans le laboratoire sans trop bien savoir ce qu'il pourrait faire. Il est arrivé parce qu'il avait fait une petite installation dont le principe était de montrer simplement une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, il l'a posée sur une surface qui repousse l'eau, donc elle a vraiment une forme de perle, elle ressemble à un petit bijou. Alors cette fois-ci, on la voit, on n'est plus dans le nuage, on est à l'échelle millimétrique, elle est d'une sphéricité presque parfaite, donc ça pose des tas de questions scientifiques, bien sûr, en particulier, qu'est-ce qui sculpte l'eau? Elle a une forme, et elle a même une forme parfaite. La sphère est une forme de perfection, et évidemment, on s'est intéressé très tôt à comprendre cette chose-là. Et lui voyait plutôt la beauté. Au laboratoire, il y a eu un long temps d'observation, on était un peu comme des animaux qui se reniflent. Il a finalement fait quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est de se saisir d'une expérience qu'on avait à ce moment-là, une expérience de recherche fondamentale, où il n'y avait pas du tout de visée artistique, bien entendu, et il l'a, non pas exactement détourné, il l'a compliqué, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Là où on utilisait des gouttes d'eau, il s'est mis à utiliser de la peinture, et la peinture, j'ai employé un mot savant, a une rhéologie, c'est-à-dire une manière de couler, qui est extraordinairement complexe. Par exemple, c'est difficile de la casser. Quand on commence à tirer sur de la peinture, il vient des filaments qui ont beaucoup de mal à se casser, au contraire de l'eau, bien sûr. Et il a fait nos expériences avec cette chose compliquée. Et en introduisant cette complexité, il a évidemment fabriqué des objets qui, pour nous, étaient tout à fait nouveaux et qui étaient d'ailleurs très stimulants d'un point de vue plus fondamental, disons. J'ai beaucoup aimé cette démarche parce que finalement, il était à la fois avec nous et ailleurs. Et je crois que c'était la bonne position, disons, pour un artiste dans un laboratoire.
Et pour clôturer cette interview au Musée d'Art de Nantes, on a demandé à Marie-Anne Duboulet et David Quéré à quoi ils nous conseillaient de faire attention la prochaine fois qu'on regarderait des nuages.
Moi, je suis persuadée que les artistes nous apprennent à regarder le monde, de même que les scientifiques nous apprennent à le comprendre et à pousser les limites aussi à chaque fois. Ne jamais oublier de regarder au-dessus de soi, autour de soi, à côté de soi, devant soi. Prendre conscience du monde qui nous entoure dans toute sa complexité et sa globalité, dans tous les sens qui sont mis en éveil. Et le regarder peut-être avec un regard d'enfant, comme si on le regardait pour la première fois. Pas essayer de prendre ce premier ressenti qu'on peut avoir, ah, il pleut, c'est agaçant, je vais me faire mouiller. Mais non, au-delà de ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais observer des miroitements, je vais sentir des odeurs incroyables, je vais être mouillée, mais après, une fois que je me sécherai, ça sera tellement agréable aussi. C'est une multiplicité d'émotions et de sens qui sont mis en éveil. Et ne jamais oublier de regarder le monde qui nous entoure avec un regard neuf le plus possible.
Je dirais peut-être deux choses. La première, c'est que ce qui est très paradoxal dans l'exposition qui se tient au Musée d'Art de Nantes, c'est que des artistes cherchent à saisir quelque chose qui est essentiellement invisible. Pour des tas de raisons. Parce que la pluie, c'est des gouttes, mais dans un nombre tellement grand qu'on ne peut pas les saisir. Parce que l'eau, c'est transparent. Parce que les gouttes de pluie, c'est petit. Et puis, par ailleurs, rapide. Pour donner des ordres de grandeur, une goutte de pluie, c'est millimétrique et ça va à 20 km/h. Donc, en fait, c'est invisible. Et donc, il y a un défi extraordinaire et c'est évidemment très intéressant de regarder les solutions qu'ont pu trouver les artistes pour représenter quelque chose qui leur échappait. Nous, de retour dans la rue, le jour où il pleut, je pense que c'est intéressant d'essayer de voir jusqu'où peut aller notre regard sur la pluie. Et puis, je dirais, au-delà, se rendre compte que dans la modestie des phénomènes qu'on est en train d'évoquer, et aussi dans leur quotidienneté, particulièrement à Nantes, il faut bien dire, eh bien, on a là une très grande leçon. C'est-à-dire que on voit souvent la physique comme une science de l'infiniment petit, une science de l'infiniment grand, et il existe aussi une physique de l'infiniment moyen, si je puis dire, celle qui serait visible à l'œil nu, celle qui nous entoure, et qui est aujourd'hui une extraordinaire source d'inspiration. Finalement, il y a des tas de choses tout à fait extraordinaires à notre portée. Donc à nous d'abord de les voir, et puis à nous de les interroger ensuite.
Je voulais remercier le Musée d'Art de Nantes de nous avoir accueillis pour poser ces quelques questions. On a vraiment apprécié passer ce petit temps pour interroger l'historienne de l'art et le physicien, et notamment aussi visiter l'exposition.
Merci Jérémy et Julie d'être allés à la rencontre de Marie-Anne Duboulet et de David Quéré. Vous pouvez vous rendre au Musée d'art de Nantes pour profiter de l'exposition « Sous la pluie » jusqu'au 1er mars 2026. Ensuite, l'exposition ira à Rouen, en Normandie, au printemps 2026. Encore un lieu où les nuages seront au rendez-vous.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Solène et Amandine pour leur chronique. Merci à Jérémy pour son interview. Merci évidemment à nos invités. Merci à Angelica Bianco, merci à Pauline Nibert, merci à Marianne Duboulet et merci à David Quéré pour leurs éclairages passionnants. Une émission préparée par Cécile Berga et Julie Merlin, réalisée par Célie Dubost, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou nos réseaux sociaux et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission.
FM. Mr. Postman, did I get mail? Did I get a letter? Did I get a postcard?
FM.